Et cette semaine, dans ces conversations avec notre géopolitologue Daniel Haber, nous faisons un point sur la guerre en Israël, bien sûr, sur le lien entre cette guerre et celle qui se déroule en Ukraine, et puis aussi sur l'obsession des dirigeants mondiaux autour de l'aide humanitaire.
Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Comme chaque lundi matin, nous nous conversons à 7h15. Et depuis le 7 octobre et le début de cette guerre, chaque lundi matin, nous faisons un point sur la guerre entre Israël et le Hamas. Alors, où en sommes-nous, Daniel Haber?
Alors, en 7 points, petit 1, Tsahal poursuit son plan systématique. On ne sait pas tout, mais au fond, la moitié des combattants sont hors combat, soit tués, blessés, ou se sont fondus dans la nature, ou se sont rendus. Et donc, deuxièmement, les objectifs, contrairement à ce qu'on dit, sont clairs. Il s'agit d'empêcher que Gaza devienne une plateforme d'attaque contre Israël, un peu comme quand Daesh avait une base territoriale en Syrie, en Irak. Il fallait éradiquer ISIS ou Daesh de cette plateforme. Ils existent toujours, mais on voit bien, beaucoup moins virulents et beaucoup moins dangereux. Donc les objectifs sont clairs. Troisièmement, aucune pression extérieure ne fera dévier Israël de cet objectif. Mais ce qu'on note, on l'avait bien noté la dernière fois, la venue de Jake Sullivan, cette phrase très importante qu'il faut toujours avoir en tête, « Aidez-nous à vous aider », veut dire que Israël et les Américains ensemble essaient de trouver une solution pour éviter toutes ces critiques sur les bombardements soi-disant indiscriminés. Et on le voit déjà ça à l'œuvre. Il y a beaucoup moins de cibles qui sont visées, d'ailleurs parce qu'il y en a déjà eu énormément qui ont été détruites. Les destructions sont presque suffisantes. Et donc, par cette modulation en phase, mais on est toujours dans la phase 1, on passera à une phase 2 qui sera plus silencieuse, et puis la phase 3, ça sera que fait-on de Gaza? Tout ça est, je pense, bien géré en coopération avec les Américains. La quatrième chose, c'est dès le début, la première phrase des dirigeants israéliens, c'est ce sera long, ça prend du temps d'extraire 30 000 combattants et des dirigeants et une logistique d'un territoire qui est quand même, même s'il est grand comme un département français, c'est quand même assez grand. Cinquièmement, on voit bien que la fin de la phase 1, qui sera le cessez-le-feu, va beaucoup dépendre de la situation du point de vue des dirigeants du Hamas qui sont en ce moment sous pression très forte. Et on comprend d'ailleurs tout de suite pourquoi le Hamas refuse d'entrer dans de nouvelles discussions d'otages. Tous les otages qu'il a, il va les négocier pour sa survie. Ça me rappelle beaucoup l'évacuation d'Arafat du sud du Liban, dans le Fatahland. C'était le Gaza de l'époque. Ils étaient vaincus et la France, a sauvé Arafat et lui a permis de sortir et d'aller s'installer à Tunis pendant plusieurs années. Donc il est possible que le Hamas joue cette carte contre les otages, de laisser partir quelques dirigeants qui rejoindront les autres dirigeants, mais Gaza sera nettoyé. L'avenir de Gaza, contrairement aussi à ce qu'on dit, il est déjà en discussion et on sait comment ça va se passer. On sait déjà que les États arabes, et en particulier l'Égypte et l'Arabie saoudite, vont jouer un rôle important. Et donc, on est plutôt encore en phase de négociation parce que on a un petit peu de temps devant nous, mais on sait parfaitement où on s'en va, où on va. Et puis, septième et dernier point, les extensions. Le Hezbollah joue un jeu assez dangereux en testant Israël. Israël gagne du terrain. L'objectif d'Israël, il est simple aujourd'hui, c'est de repousser le Hezbollah au-delà de la rivière Litanie, 10, 20, 30 kilomètres de la frontière avec Israël, pour qu'on puisse réinstaller les habitants d'Israël du Nord. Hein, ils sont 20 000 à être partis, donc il faut qu'ils se réinstallent. Ça se fera soit par la diplomatie, et en ce moment la France essaie de jouer un rôle parce que ce qui est en jeu, c'est l'avenir même du Liban et la destruction de Beyrouth. Donc, et puis il y a la US Navy qui est à côté, donc je crois que le Hezbollah a à peu près compris le message, et l'Iran aussi. Mais voilà, si ça se fait pas par la diplomatie, ça se fera par la force, et Israël est prêt. D'ailleurs, l'évacuation des habitants montre qu'Israël était prêt, et toujours prêt d'ailleurs, à aller plus loin. Et c'est l'intérêt d'Israël d'ailleurs, si c'était possible, d'éliminer le Hezbollah, qui est beaucoup plus dangereux encore que le Hamas. Et puis il y a les Houthis. Les Houthis, là, c'est un problème qui est devenu tout de suite international, mondial, et donc Israël n'a pas de raison d'être en tête, et on laisse les Américains monter cette coalition. Donc, si vous voulez, on est au clair sur la situation. Israël avance selon ses plans.
En cette année 2023, on a connu deux guerres majeures, celle en Ukraine et celle en Israël. Il y a un lien entre les deux?
Bien sûr, on voit bien que l'appui américain vis-à-vis de l'Ukraine est en danger aujourd'hui. D'abord, il y a une fatigue générale de cette guerre, bien entendu, depuis 2 ans, mais surtout, le Congrès américain s'oppose à Biden, ne s'est pas opposé pour Israël. Israël a eu le vote des 14 milliards dont elle avait besoin, donc Israël est dans une bonne position. Par contre, les 40 milliards demandés pour l'Ukraine sont en balance parce que le Congrès le négocie contre des lois sur l'immigration mexicaine, parce que tout ça seront des enjeux de la campagne présidentielle qui va commencer dès le 15 janvier. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que du point de vue américain, la guerre en Ukraine est une guerre européenne et c'est aux Européens de prendre le relais à la fois financier et armement des États-Unis. Les Européens ont toujours demandé un rééquilibrage de l'OTAN, qu'il y ait deux pôles, le pôle américain, le pôle européen. Ben voilà l'occasion pour l'Europe de s'imposer. Malheureusement, l'Europe, elle a des contraintes budgétaires qu'elle s'impose à elle-même et elle a du mal à dégager les financements nécessaires. Donc, on voit bien que là, il y a un vrai problème pour l'Ukraine. Alors que pour Israël, il n'y a pas de problème ni de budget, ni même de volonté stratégique américaine, tout simplement parce que pour les Américains, il est vital de reconstituer en même temps qu'Israël cette crédibilité qui a été perdue en Israël par l'attaque et aux États-Unis par le retrait de l'Afghanistan dès l'arrivée de Biden. Il faut récupérer tout ça et donc les deux pays ont même intérêt stratégique à continuer la lutte jusqu'au bout. Donc on est tranquille du côté israélien, mais quand même. C'est un léger bémol. Lorsqu'on voit l'Amérique prête à peut-être lâcher l'Ukraine, ça pose toujours la question pour tous ceux qui veulent se mettre sous le giron américain, et c'est le cas de tous les États arabes sunnites comme l'Égypte, l'Arabie saoudite, qui vont faire le choix américain et le choix israélien dès qu'on reprendra les négociations, être sûr que l'allié américain sera là. Donc là aussi, pour cette raison-là, l'Ukraine ne doit pas être complètement lâchée par les Américains.
Pour revenir sur la guerre en Israël, il nous reste 2 petites minutes, Daniel Haber. On a vu Emmanuel Macron se rendre en Jordanie, à l'ONU également, on en parle énormément. C'est cette obsession de l'aide humanitaire.
Oui, au fond, c'est un prétexte. Les pays européens savent bien que le narratif selon lequel le Hamas a voulu réactiver la question palestinienne et qu'il faut négocier avec le Hamas la solution à deux États, tout ça, c'est un conte de fées, comme je le disais aussi les fois précédentes. Mais on fait semblant d'y croire. Et comme on ne sait pas résoudre cette question, puisqu'elle est, c'est pas la vraie question, puisque la vraie question, c'est que le Hamas agit pour l'Iran et dans le cadre d'ailleurs d'un mouvement islamique qui est mondial, qui est anti-occidental, tout ça, tout le monde le sait, mais peut pas l'avouer parce qu'il faudrait prendre des mesures que les Occidentaux ont peur de prendre. Il s'agit de détruire les capacités nucléaires potentielles de l'Iran, c'est ça qui est en jeu derrière tout ça et le Hezbollah. Donc parce qu'on a peur, surtout en année électorale, d'aller jusqu'au bout, on s'invente des solutions. Alors là, on parle d'humanitaire et donc parce que ça coûte rien, si ça coûte de l'argent, mais ça permet d'éviter d'apporter des solutions et donc on voit la discussion tourner autour de l'humanitaire et on voit les ennemis d'Israël et chercher des prétextes. Justement, le titre du Monde hier, c'était Gaza court à la famine. Alors après, quand on lit, on s'aperçoit que c'est pas pour tout de suite, que etc. etc. Évidemment, ça n'arrivera pas, mais c'est juste pour dire que c'est un enjeu médiatique des deux côtés. Donc d'un côté, on brandit ces pauvres Gazaouis. Il faudra qu'on parle une prochaine fois sur le thème les Gazaouis sont-ils innocents? Parce que ça, c'est une vraie question. Et donc ces cris d'orfraie sur l'humanitaire, c'est un moyen pour notre notamment les Occidentaux, de fuir une partie de leurs responsabilités. C'est notamment le cas des Européens, de Macron, de Cameron, qui ne savent pas comment échapper à des décisions beaucoup plus décisives. On
Daniel
verra les semaines
Aber.
suivantes.
Daniel Aber, ben justement, on verra ça les semaines suivantes. Merci d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka ce matin.
Voilà, bonne fête de fin d'année et à la semaine prochaine.